désolée, vraiment désolée. Mettre la fin du monde au menu de cette émission, c'est pas super festif. Encore moins au cœur de l'été, quand la seule question qu'on a envie de trancher, c'est faut-il piquer les merguez avant de les passer au barbecue ? Évidemment que non, il faut pas reposer cette fourchette. Et pourtant, cette angoisse existentielle s'invite désormais dans les déjeuners en famille ou à la machine à café. L'apocalypse n'est plus le seul sujet des romans de Barjavel ou du cinéma hollywoodien. Ce serait devenu un futur rendu tangible par le chaos climatique. Et cette fois, Kevin Costner ne pourra rien pour nous. C'est toute la problématique qui est posée par la collapsologie, l'éco-anxiété, la solastalgie. Terme tout aussi mystérieux et déconcertant que la question qu'il nous incite à nous poser: comment vivre avec la fin du monde? Faut-il accepter l'effondrement de la société industrielle pour mieux s'y préparer? La théorie de l'effondrement nous prend aux tripes et elle prend aussi la tête de ceux qui n'y voient qu'un prêche culpabilisateur. Si la catastrophe écologique est certaine, faut-il que nous soyons terrifiés ou déprimés pour changer nos habitudes et sauver la planète? À quoi bon la collapsologie? C'est au menu jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et j'attends évidemment vos avis, vos questions, vos réactions à ce débat sur Twitter, hashtag le débat de midi, à la page France Inter, à la page le débat de midi sur franceinter.fr. Et j'accueille mes quatre invités. Jean-Baptiste Fressoz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'environnement, en duplex depuis les studios de la RTBF à Namur. Gauthier Chapelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, docteur en biologie et vous avez publié Une autre fin du monde est possible avec Pablo Servine et Raphaël Stévens. Nous a rejoint également duplex Loïc Stéphan depuis les studios de France Bleu Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur de l'Observatoire des vécus du collapse. Vous nous direz ce que c'est, les vécus du collapse. Mmh. Vous enseignez également à l'Institut National Universitaire Jean-François Champollion. Et dans ce studio, en direct, Clément Monfort. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et vous avez réalisé une web-série qui s'appelle Next, qui est diffusée sur YouTube, sur une chaîne qui est à votre nom, qui documente, qui raconte ce que c'est que cette communauté des collapsologues. Gauthier Chapelle, ça commence à avoir une résonance, une existence médiatique et littéraire, ce mot de collapsologie, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Quand et comment est-ce que c'est né, ce mot? Il paraît que vous étiez là le jour où ça a été prononcé.
Oui, en effet, mais c'est né sur un trottoir de Bruxelles, lors d'une discussion qu'on a eue tous les trois, donc Raphaël, Pablo et moi, au moment où eux étaient en train d'écrire « Comment tout peut s'effondrer », qui est un peu le livre qui a lancé le mouvement
un
francophonie, devenu un best-seller depuis, qui n'a pas d'ailleurs tout de suite été, qui a tout de suite eu un certain succès, mais qui est revenu en force l'été passé dans le sillage à la fois du coup de chaleur, mais surtout de la démission de Nicolas Hulot, d'un certain nombre d'événements. Et puis il y a eu ensuite encore la mobilisation des jeunes derrière, et tout ça a nourri la curiosité vers ce qui avait été écrit dans ce bouquin et vers la collapsologie.
Et comment la définir simplement? On entend que c'est la théorie de l'effondrement et en même temps certains collapsologues s'opposent à cette définition. C'est quoi exactement? Ça désigne quoi?
La collapsologie, ce serait une discipline qui étudie l'effondrement de notre civilisation, je dirais par opposition à l'effondrement des autres civilisations qui ont déjà eu lieu et qui sont déjà étudiées. Donc c'est vraiment pour se focaliser sur celle de la nôtre. Ceci dit, nous, on n'en parle pas nous en tant que théorie, on n'en parle pas non plus en tant que discipline purement scientifique, bien que nous la basions essentiellement sur des faits scientifiques, et on en parle aussi plus souvent comme un récit, comme un récit qui nous permet à tous de réfléchir et de nous projeter dans l'avenir par rapport à ce qui pourrait arriver.
Jean-Baptiste Fressoz, vous avez réagi au sein sourcil au mot récit. Oui, c'est une narration, la collapsologie?
Oui, c'est avant tout un récit, effectivement. C'est un récit qui a rencontré un grand succès parce que c'est un récit qui est très banal, en fait. Le récit de l'effondrement de la civilisation, on a tous en tête tout plein d'images littéraires très anciennes.
Je parlais de Barjavel.
Qui nous raconte ça, Barjavel, par exemple. C'est un récit alors quand on dit c'est des best-sellers, c'est un succès, etc., faut relativiser un peu la chose. C'est-à-dire, en 1948, il y a Fairfield Osborne qui publie un livre qui s'appelle « La planète au pillage », qui fait à peu près le même genre de constat sur un effondrement à court terme de la civilisation industrielle. Il en vend plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Je crois pas du tout qu'on soit dans ces ordres de grandeur, on est plutôt en dizaines de milliers. Pareil pour William Vogt, The Road to Survival, la route vers la survie, c'est des millions d'exemplaires qui sont vendus. Paul Ehrlich, la bombe P, un texte malthusien classique, ceci des millions, pareil pour le rapport au Club de Rome. Donc des best-sellers sur l'effondrement, je dirais qu'il y en a eu pléthore, et il faudrait plutôt dire que l'effondrement, c'est une bonne recette pour faire un bouquin qui se vend bien.
Ah oui, c'est une tendance aussi, peut-être.
Bah, disons que, voilà, à ce moment, c'est une tendance, parce qu'il y a tout plein de bonnes raisons de s'inquiéter. Hein. Je veux dire, c'est pas que un récit, il se passe des choses très graves, mais c'est pas du tout un
effondrement. Ça se matérialise, en tout cas, par des livres, par des podcasts, par des émissions.
Et disons que ce que je trouve dommage, c'est que la crise environnementale, qui est un phénomène complexe, absolument avéré, crise de la biodiversité, diminution radicale des populations d'animaux, d'insectes, changement climatique, ça enclenche tout plein de processus complexes à travers la planète, en fonction des pays, en fonction des classes sociales, et c'est ramené dans le récit le plus éculé qui soit, le plus banal, qui est l'effondrement de la civilisation. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve pas que ça avance. Au contraire, pour moi, c'est plutôt une régression, en fait.
On va essayer de pas être, de pas sombrer dans la banalité, d'être un peu originaux sur ce débat de midi à propos de la collapsologie. C'est juste après Batlick, Avalanche.
Ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un bleu de Chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un bleu de Chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige.
Il est midi 15, vous êtes sur France Inter, c'est le débat de midi, une émission préparée par Anna Massardier.
Le lémurien de Madagascar, les tortues marines de Méditerranée, les wallabies des rochers d'Australie, toutes ces espèces risquent de disparaître.
Avec les canicules à répétition, les Nations Unies ne savent plus quelles images utiliser pour alerter sur l'ampleur du désastre climatique.
Dès aujourd'hui, nous avons déjà consommé plus de poissons que ce que les océans peuvent renouveler en une année.
Sommes-nous prêts
pour la fin du monde.
Un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi, c'est très probable avant 2020 et sûr avant 2030.
Dès 2035, à mon avis, et peut-être en 2040, enfin après le grand effondrement.
En physique, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher. Automatiquement.
Eux, ce sont les collapsologues.
La solastalgie ou l'éco-anxiété.
Je pars du principe que peut-être mes enfants n'atteindront pas leur majorité. Et chaque jour de prix est un jour merveilleux.
Les rêves de cataclysme et de fin du monde sont très courants.
Quand j'avais 17 ans, j'ai eu des flashs en arrivant à Paris de gens qui brûlaient vifs. Cette image m'a poursuivi très longtemps. Après, j'ai commencé à étudier toutes les prophéties pour m'apercevoir que toutes les prophéties disaient qu'un jour, la capitale des Gaules, à Paris, un jour brûlerait.
On s'attendait à ce que la station Mir ne s'écrase pas sur Paris parce que son orbite ne passe pas au-dessus de Paris, donc il n'y avait aucune raison qu'elle s'écrase. Il faut s'appeler Paco Rabanne pour ne pas savoir cela.
Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend.
Je ne veux pas partir la première, mais je veux pas rester la dernière. Surtout pas.
Viens voir enfin l'autre côté. On va
La fin du monde, ça a aussi causé beaucoup de tort à la chanson française. On a entendu plusieurs déclarations, plusieurs expressions, et notamment, on a entendu Pablo Servigne, qui est biologiste, qui est une figure de ce mouvement, et qui affirme que la date fatidique de l'effondrement de cette civilisation se situe entre 2020 et 2050. Loïc Stéphan, d'où sort cette prédiction qui a l'air à la fois un petit peu au doigt mouillé et pas sourcée, ça veut dire quoi, entre 2020 et 2050 déjà, c'est,
alors,
c'est
elle est sourcée en fait. Elle découle en fait des travaux de Meadows qui sont connus dans les années 70. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est on a pris les données de 1900 à 1970. On a regardé ce qui se passait. On a fait des simulations. Et ensuite, on a pris les données de 70 jusqu'à 2012, la dernière actualisation par Graham Turner. Et on s'aperçoit en fait que les données collent à la prédiction initiale du modèle. Il y a d'autres modèles, il y en a un qui est connu, que j'ai traduit, je suis le traducteur français avec un ami, Patrick Solignac, qui s'appelle Human and Nature Dynamics, et qui étudie aussi les capacités porteuses de la planète, et qui essaie de voir en fait qu'est-ce qui se passe si on dépasse la capacité porteuse. Et on s'aperçoit que lorsqu'on dépasse les capacités porteuses, on a des phénomènes de réduction de la capacité de la planète à nourrir les gens, à travailler. Et il y a un théoricien qui s'appelle Hugo Bardi, qui a écrit un livre qui s'appelle La falaise de Sénèque, et qui reprend cette hypothèse et qui dit, voilà, si on dépasse de trop les capacités porteuses, on va avoir un phénomène d'effondrement. Et en fait, la prédiction de Pablo Servigne ou d'Yves Cochet s'inscrit dans la logique de ces travaux-là.
Jean-Baptiste Fressos, c'est cette hypothèse qui vient d'être décrite, elle vous semble solidement construite sur des données scientifiques ou un petit peu hasardeuse?
Je crois que ce qui vient d'être dit, c'est important, c'est-à-dire que la collapsologie, en fait, ça recycle une inquiétude qui remonte aux années 70, qui était celle du pic du pétrole. Oui. Et le problème, c'est que ce qu'on vit avec la question du changement climatique, c'est quelque chose de très différent. On va pas. Ce que nous disent les géologues, c'est qu'en fait, il y a encore énormément de ressources fossiles, beaucoup trop, pour éviter la catastrophe climatique. Les géologues disent, il faut laisser les trois quarts des ressources de charbon, de pétrole et de gaz sous le sol pour éviter de dépasser 2 degrés en 2100. Donc en fait, la question du changement climatique devrait entièrement renouveler l'écologie. Et le problème, c'est qu'on traîne comme un boulet, à mon avis, c'est ce modèle de Meadows. On rencontre le mur climatique beaucoup plus tôt que le mur des ressources. Et le problème, c'est le on, parce que le on, en fait, ceux qui rencontrent vraiment, ceux qui vont se prendre de plein fouet la question du changement climatique, c'est les pauvres des pays pauvres qui sont beaucoup plus sensibles à la menace climatique.
Est-ce qu'on est tous dans le même bateau, et est-ce qu'on peut tous prôner la collapsologie heureuse?
Le problème, en fait, ce qu'on vit, c'est pas un effondrement univoque et massif. D'ailleurs, il y a la civilisation industrielle, on dit que ça n'existe pas, et quand on dit comment tout peut s'effondrer, qu'est-ce que ça veut dire tout? Ça veut absolument rien dire. Et donc, le problème, c'est l'extraordinaire injustice de la situation. On vit un apartheid climatique. En gros, les riches, les pays riches changent le climat et ça impacte les pauvres des pays pauvres. C'est ça la situation actuelle.
Gauthier Chapelle, cette théorie de l'effondrement, elle prédit quoi exactement? La chute, c'est quoi? C'est les exodes, c'est les famines, c'est les épidémies, c'est les guerres?
Mais moi, j'aime pas tant parler de prédiction et de théorie. Je l'ai dit en introduction. Mm-hmm. Voilà, simplement, elle dit que et c'est lié au changement climatique, comme Jean-Baptiste Ressaud vient de le dire. Ça veut quand même dire qu'à un moment donné, si on choisit de garder les trois quarts des ressources fossiles dans le sol, ça veut dire aussi qu'on doit sortir de la dépendance que nous en avons dans notre système économique à large échelle, et du coup, les impacts climatiques vont concerner d'abord les pauvres des pays pauvres, ça j'entends bien, mais les impacts sociétaux de sortir plus ou moins brutalement, et on voit à quel point on s'y prépare très mal pour l'instant, de notre dépendance aux combustibles fossiles qui est partout, qui est dans l'agriculture, dans la santé, dans absolument tous les objets que nous utilisons au quotidien, peut se faire aussi non pas de façon douce et progressive, mais de façon brutale parce que pas très préparée, et donc ça peut déclencher des tas de choses, et oui, les épidémies, les famines peuvent en faire partie, mais c'est pas là-dessus qu'on est précis on peut pas être précis d'ailleurs là-dessus, ce serait...
C'est pour ça que je posais la question à propos des propos de Pablo Servigne, collapsologue, donc, qui disait entre 2050 et entre 2020 et 2050, c'est à la fois précis et vague.
Mais oui, mais là, c'était en même temps, le sens de ma question. Oui, mais la réponse a été donnée par Loïc Stéphan quels sont les travaux sur lesquels il se base. Après, je dirais la date. Pour moi, il y a une chose qui est importante aussi par rapport à ce que vous avez passé, c'est qu'on ne parle pas de fin du monde, on parle de fin. Nous, on est à la base, on est plutôt des écologues, on sait qu'une forêt, une fois qu'elle a brûlé, ben, il y a quelque chose d'autre qui repousse, qui est soit une forêt similaire, soit encore un autre milieu, et c'est plutôt de ça dont on parle. On parle juste du fait que le système actuel n'est pas viable, tel que Loïc Stéphan vient de le rappeler, et aussi parce qu'il y a ce mur climatique en plus, effectivement, qui depuis le rapport Meadows s'est dressé en plus, puisque les Meadows ne l'avaient pas fait venir, on commençait à en parler, mais ils n'avaient pas intégré dans leur modèle à l'heure actuelle, mais laisser 80% des ressources fossiles, ça veut dire changer mais complètement tout notre mode de vie, et pour l'instant, on ne s'y prépare pas et on n'est pas prêt.
Clément Montfort, on parle des collapsologues, comme si c'était une communauté monolithique, vous en avez rencontré, vous avez passé du temps avec que pour votre reportage. De quel type de population on parle ? Est-ce qu'il y a un portrait robot du collapsologue qui serait jeune, ou plutôt CSP+, plutôt éduqué ou...
C'est un exercice un peu risqué de définir ce qu'est un collapsologue, mais je pense que déjà on a un noyau de départ, que sont ceux qui théorisent l'effondrement, donc Pablo Servigne, Raphaël Stevens et puis Gauthier Chapelle qui est avec nous aujourd'hui, et puis tous ceux qui les ont rejoints pour théoriser, faire des conférences, écrire des livres. Ensuite on a les collapsologues lecteurs. Et là, est-ce qu'il y a un portrait robot ? Il n'y a pas d'études sociologiques serait... Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que pour les gens qui s'intéressent à la collapsologie sont des lecteurs et sont des gens qui sont capables de s'envoyer des conférences d'une heure en plan fixe sur Internet. Donc ça, c'est aussi...
C'est des jeunes geeks, ce que vous êtes en train de dire.
C'est des gens très curieux.
Ouais. Loïc Stéphan, vous dites si, on sait.
Alors, on commence à savoir justement. Moi, jusqu'à présent, j'ai refusé toutes les émissions parce qu'on n'avait pas suffisamment de données. Et que je voulais avoir un regard assez sérieux sur la question. Moi, je travaille avec Marie-Christine Zellem, qui est sociologue de l'énergie. Mm-hmm. On fait des travaux qui sont supervisés par des universitaires. J'ai mené une enquête sur 1600 collapsonautes en octobre dernier.
Vous avez dit collapsonautes ? On peut dire aussi
Les collapsonautes sont ceux qui prennent acte de cette possibilité de collapse et qui vont s'engager dans un chemin qu'ils pensent résilient.
D'accord. J'ai pas vraiment compris la différence avec collapsologue.
Entre collapsologue
et collapsonaute.
C'est un jeu de mots qui a été fait par Pablo Servigne sur comme cosmonaute. C'est-à-dire, je pars en voyage et donc je deviens un collapsonaute. On a des données, grosso modo, le portrait robot. Alors, dans les études qu'on a, maintenant on a 2500 questionnaires. La première étude, c'était 1600 questionnaires. Mm-hmm. Grosso modo, il y a 55% d'hommes, 45% de femmes. Ce sont des gens qui sont très éduqués. On a 60% de la population qui a un bac plus 5 ou plus. On a des gens qui ont souvent des cultures scientifiques, c'est-à-dire qui savent lire de la littérature scientifique et en tenir des données. Et après, par contre, là où je m'inscris un peu en faux avec tous les portraits qui ont été faits jusqu'à présent, c'est qu'ils sont pas du tout monolithiques. Certains sont pro-nucléaires, ils sont très peu nombreux, 25% à peu près. Les autres sont anti-nucléaires pour la plupart. Un certain nombre vont décider de changer radicalement de vie, mais finalement ils sont très peu nombreux, c'est 3-4% des échantillons. La plupart, en fait, vont être dans des stratégies d'atténuation de leur empreinte carbone, de leur impact sur l'environnement. En fait, la collapsologie, c'est un objet frontière, c'est-à-dire chacun arrive un peu avec sa définition. Ouais. Et chacun va la recevoir en fonction du système de valeurs qui est le sien. Il y a des gens, par exemple, autour de la revue Limite, qui sont des cathos, qui sont dans la mouvance de l'encyclique du pape.
Ouais, je vais vous poser la question la plus basiquement du monde. Est-ce que la collapsologie est de gauche ou de droite?
Alors, elle est plutôt de gauche. D'accord. En France, elle est plutôt de gauche. Si vous prenez les travaux de Vidal sur les survivalistes, parce que le système de valeurs est différent, aux États-Unis, elle est plutôt d'extrême droite.
Mmh. Jean-Baptiste Fressoz.
Ouais. Oui, non, je pense qu'en France, on a une version souriante de la collapsologie. Ouais, historiquement, la collapsologie, c'est quand même la théorie de l'effondrement, ça vient des Malthusiens, très réactionnaires, obsédés par le péril démographique, et qui ont plutôt une vision raciste, et qui veulent protéger la race blanche. Voilà, c'est ça, les années 50-60 aux États-Unis qui nourrissent la théorie de l'effondrement. Dans les années 90, très vite, la question du changement climatique est captée par le complexe militaro-industriel américain, par des think tanks qui travaillent autour du Pentagone, en disant il faut préparer l'armée américaine à intervenir sur les nouveaux champs de ces pays faillis. C'est très militaire, en fait. Donc, en France, pour des raisons qui tiennent, je pense, à la personnalité d'Yves Cauchet, l'Institut Momentum, on a plutôt eu la gauche a plutôt récupéré ce thème-là, en fait.
Alors, Yves Cauchet, donc ex-ministre de l'écologie, qui évidemment s'exprime beaucoup sur ces sujets-là, il y a eu un petit reportage il n'y a pas très longtemps, dans lequel on le voyait montrer comment il se préparait à la fin du monde dans sa maison, avec des stocks de bois, des conserves, des réserves d'eau et des calèches dans le garage. Il a été moqué. Ça peut effectivement prêter à sourire ou sembler un peu baroque, Gauthier Chapelle. Vous comprenez que ça puisse interroger ou ce type de représentation de la façon dont on devrait se préparer à l'effondrement?
Mais encore une fois, moi je pense que ça se fait de façon très diversifiée pour l'instant dans la communauté des collapsonautes, hein, donc collapsologues qui étudient, collapsonautes qui naviguent avec l'effondrement. Mais après, moi je partage en tout cas la volonté de s'y préparer. Nous on a axé plus sur la dimension de l'entraide, dans un autre bouquin d'ailleurs qu'on a écrit avec Pablo, en partant du principe que par définition, quand on rentre dans des situations difficiles ou des situations de pénurie, on a intérêt à se tourner vers l'entraide. Et comme on est une société qui, bien que le mouvement soit amorcé, a quand même tendance plutôt à encourager la compétition, l'individualisme, etc., la chose sans doute la plus utile qu'on puisse faire pour se préparer à l'heure actuelle, c'est de se reconnecter avec ses voisins, basiquement, ou en tout cas avec, je vais l'appeler comme ça, sa tribu de personnes qui partagent les mêmes valeurs et pour pouvoir se préparer ensemble, sans passer son temps d'ailleurs à discuter de savoir si ce collapse va se passer ou non, sachant que, comme ça a été dit avec l'enquête de Loïc Stéphan, par définition, quand on fait de l'atténuation, on se prépare déjà à vivre plus sobrement et ça sera utile soit pour éviter le collapse, soit pour le traverser, mais dans les deux cas, ça ne sera pas inutile.
Je parlais en tout début d'émission de déco-anxiété et de tous ces syndromes dont on entend parler beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui affirment que le changement climatique, le contexte dans lequel on vit, ça affecte la santé mentale et ça susciterait certaines émotions.
Oui.
Clément Monfort d'abord et après je vous écoute. Mais Clément Monfort, vous l'avez observé auprès des collapsologues que vous avez analysés, fréquentés pendant votre enquête, cette dimension psychologique.
Oui, exactement. Ouais. Et c'est ce qui m'a intéressé dès le début, en fait, c'est que je me suis très vite rendu compte qu'avec ce livre, Comment tout peut s'effondrer, on avait des réactions qui étaient suscitées chez les lecteurs qui étaient extrêmement puissantes. On pourrait dire qu'on entre en collapsologie et il y a plusieurs phases. Mais
quelles émotions? C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de l'anxiété,
c'est de l'inquiétude. Il y a de la colère chez certains envers eux-mêmes pour leur comportement passé, envers leurs proches. Il y a de la tristesse, il y a de la peur. Il y a de l'angoisse, qui est pas directement une émotion, mais en tout cas c'est ce que ça provoque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui s'intéressent à la collapsologie naviguent d'émotion en émotion, et c'est pas quelque chose de figé. Mais ce qui m'a frappé, moi, et c'est ce que j'ai voulu documenter dans ma série Next, c'est qu'en fait parfois des personnes s'intéressaient à la collapsologie, mais dans un cercle familial et amical qui était pas du tout initié, et se retrouvaient dans des situations complètement inextricables où ils n'arrivaient pas à en parler. Et ça générait chez eux des situations de frustration extrême. que j'ai documenté, que j'ai filmé, où finalement ces gens se retrouvent dans un état de panique en se disant, mais bon, si on n'est qu'un nombre très réduit à s'inquiéter d'un effondrement, il va être d'autant plus grave. Et c'est des réactions qui sont que j'ai rarement vues avec d'autres livres. Là, il y a vraiment une différence de nature avec celui-là. C'est un phénomène, en fait.
Gauthier Chapelle, c'est un phénomène nouveau d'être touché psychologiquement, d'être vraiment dans sa santé mentale, dérangée par le péril écologique.
Moi, je ne pense pas. On pourra se tourner vers Jean-Baptiste aussi. Je pense que ça a existé de tout temps. Ça a déjà été manifesté de tout temps. Peut-être que c'est maintenant qu'on commence à le prendre au sérieux. Mmh. Et là où
c'était
je voudrais
pas exprimé apporter... avant. C'était pas
ben,
public.
Oui, mmh. ou pas pris au sérieux. Encore mmh. une fois, c'était moqué éventuellement et ou ramené à de la psychologie uniquement centrée sur l'individu en disant mais non, c'est des projections. Mais par contre, moi, ce que je voudrais dire, je vais dans le sens de ce que vient de raconter Clément, c'est que derrière tout le ballet de ces émotions plutôt pénibles, on va dire inconfortables, peut arriver ensuite et arrive très régulièrement aussi un espèce de soulagement de se dire bon ok maintenant j'y vois plus clair dans quelque chose que je pressentais déjà. Nous on a énormément de retours de personnes qui n'ont pas découvert le collapse mais qui l'avaient pressenti et qui en lisant le bouquin se sont dit ah voilà quelqu'un qui met des mots sur quelque chose que je pressentais et qui du coup se remettent autrement dans l'action avec une espèce de soulagement, certes en traversant encore des moments de tristesse ou de colère par exemple, mais qui leur permettent aussi de contacter une certaine joie. Ça a été pris dans vos extraits très brièvement, même si je trouvais que c'était un peu caricaturé, mais en tout cas une joie.
C'était des extraits, donc de fait, on peut
ouais,
pas.
Oui, mais il n'y a pas. Voilà, c'est comme ça. Mm. Mais une joie aussi de d'autant plus goûter, je dirais, le sel de la vie parce que le sachant menacé. Quand je dis menacé, je ne dis pas que la vie est menacée, hein. Je dis, mais sachant que notre mode de vie, en tout cas, peut l'être. Et voilà, de retrouver une joie aussi des relations, mm. une joie des relations avec les autres humains et d'ailleurs aussi avec les autres espèces et avec le reste de la Terre. Donc il n'y a pas qu'un sentiment négatif qui en sort. C'est un peu le pendant de la solastalgie, effectivement. Mm. On est nostalgique de ce qu'on a perdu, mais on peut goûter d'autant plus ce qui est encore là.
Jean-Baptiste Fraisseuse, on a entendu, donc je le disais, des témoignages de personnes parlant de burn-out écologique, notamment des experts du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, qui ont ce vocabulaire-là, psy. C'est un phénomène nouveau d'être affecté comme ça. Greta Thunberg, la militante suédoise, dit qu'elle a fait une profonde dépression après avoir vu un documentaire sur les ours polaires.
Alors, je ne sais pas si on peut employer des mots psychologiques, mais en tout cas, l'idée d'être affecté par l'environnement, la destruction de l'environnement, non, c'est un sentiment évidemment très ancien. Je dirais qu'il y a une idée à laquelle il faut tordre le cou, c'est que ce serait que depuis peu qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes très sérieux, et même au niveau global. Et je dirais que l'écologie, c'est pas simplement des minorités qui interpellent le gouvernement. Les gouvernements, dans l'histoire, ont eu des écologies, ont eu des discours écologiques pour agir sur certains groupes de population. Par exemple, fin 18e, une énorme angoisse, c'est la question du déboisement, qui a eu un vrai sujet, hein, de la déforestation et de l'effet que ça a sur les sols, de l'effet que ça a sur le climat. C'est pris en charge par le gouvernement, c'est pris en charge par l'Assemblée nationale, par l'Académie des sciences. C'est une question centrale. Pareil pour l'épuisement des sols. Tout au long du 19e siècle, la grande question d'écologie politique, c'est l'épuisement des sols et la question de la famine d'avenir. Sachant que là, pour le coup, à la fin du 19e siècle, enfin milieu du 19e siècle, on est vraiment dans des situations tendues au niveau frumentaire. C'est-à-dire, effectivement, c'est un problème de nourrir la population de la France, de certains pays européens, etc. L'angoisse va s'atténuer dans la seconde moitié du 19e siècle avec la globalisation agricole et l'afflux de céréales qui vient de Russie, d'Amérique, etc. Donc j'ai envie de dire que des situations tendues, on en a vécu évidemment bien plus par le passé que maintenant, que la situation actuelle qui est quand même beaucoup plus facile à négocier au fond. Je dirais qu'il y a vraiment cette idée fausse de croire que on vit un moment de conscience et d'illumination environnementale. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. N'importe quel philosophe, écologue a tendance à raconter les choses comme ça, mais vraiment, historiquement, ça ne tient pas du tout.
Clément Monfort, vous vouliez réagir?
Oui, sur la notion de soulagement dont parlait Gauthier Chapelle à l'instant, moi j'ai été surpris de voir des centaines de commentaires, notamment sur une des vidéos que j'ai produites sur finalement cette peur en apprenant c'est l'ampleur de ces risques d'effondrement et puis l'ampleur des effondrements passés et présents hein, sur les écosystèmes qui sont là. Et j'ai été surpris par tous ces commentaires de gens qui ne disaient pas en fait j'ai encore plus peur en regardant ces citoyens me parler de leurs sentiments, mais c'est des commentaires de soulagement. Des gens qui me disaient mais en fait je me sens moins seul parce que je vois par effet miroir, je vois d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations que moi, qui n'arrivent pas à en parler autour d'elles, qui ont peur, qui sont en colère, qui sont tristes. Et en fait, il y a vraiment cette notion là de partage et d'empathie. Et en fait, je pense que l'apport principal, selon moi, moi je suis pas là pour défendre ou attaquer la collapsologie, mais selon moi, l'apport principal de la collapsologie, c'est d'introduire la question des émotions dans le débat. Parce qu'en fait, qu'on soit scientifique, homme politique, citoyen ou journaliste, quand il y a une information qui arrive, ce qui se joue en premier lieu, c'est la question des émotions. Comment je reçois cette information-là? Même si on est insensible, c'est aussi une réaction émotionnelle de se protéger, de se barricader. Et tant qu'on rentrera pas dans l'analyse de ces émotions, on pourra pas comprendre pourquoi ça suffit pas d'informer les gens dans tous les JT sur les catastrophes environnementales pour que ça bouge. Je pense que on n'est pas dans un débat sur les faits. Il faut, enfin, ce débat-là, il est en place.
Il est émotionnel. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Aussi une question émotionnelle qu'il faut traiter. L'émotion, c'est pas juste pour les salles de cinéma.
Christelle, une auditrice réagit, nous parle des émotions qu'elle ressent quand elle regarde la télévision, qu'elle écoute la radio et qu'elle entend parler du désastre écologique. Elle est pas du tout dans ce que vous décrivez. C'est pas du tout du soulagement ou du lien. Je ressens une énorme angoisse et une tristesse sur l'avenir quand je regarde différents documentaires sur le péril écologique. Donc ça peut plomber davantage que mobiliser. Quand on est triste et angoissé, est-ce qu'on a envie de se battre pour la planète, Jean-Baptiste Fraisseau?
Je pense que c'est une question intéressante. Est-ce que le discours de l'effondrement, le récit de l'effondrement, puisqu'on a bien dit que c'était un récit et que c'était pas une science, hein, une prédiction avérée, le récit de l'effondrement, est-ce qu'il est mobilisateur ou pas pour l'écologie politique? Je pense que c'est la seule question en fait importante et intéressante. Alors si ça permet de réduire l'empreinte écologique au niveau individuel, moi j'y vois plutôt que du bien. Le problème, c'est que ça peut aussi charrier d'autres problèmes, enfin d'autres visions du monde. On peut aussi imaginer un mouvement de repli sur soi et de défense de sa propre tribu, pour employer le terme que Gauthier Chapelle venait d'employer. Ça peut aussi charrier des choses assez nauséabondes, je pense, sur l'angoisse malthusienne, sur la peur des réfugiés climatiques, etc. Ça peut aussi entraîner, à mon avis, ça peut réarmer l'utopie d'une solution technologique, bizarrement. Parce que si, comme nous le dit Yves Cochet, l'enjeu, c'est que 3 milliards de personnes vont y passer avant 2030, ce qui est quand même un très gros enjeu, si c'est ça, dans ces cas-là, tout devient permis. Y compris, je sais pas, du nucléaire, parce que si on nous dit que c'est le problème, c'est l'énergie, ben très bien, faisons beaucoup d'énergie, on a plein d'énergie avec du nucléaire. Ça peut réarmer la géo-ingénierie aussi. Je sais pas si tous les auditeurs savent ce que c'est, mais c'est cette idée qu'on va pas réussir à résoudre le problème du CO2 par la limitation des émissions de carbone. C'est trop compliqué, on se met pas d'accord, etc. Et donc, il y a une solution technologique qui est d'imiter ce que les volcans font. Par exemple, en 1991, il y a un volcan qui s'appelle le Pinatubo qui a réduit de quelques degrés la température globale en émettant du dioxyde de soufre dans la haute atmosphère. Eh bien, faisons la même chose et prenons en charge le climat tout entier. Donc, ce discours de l'effondrement qui met la barre très 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 haut, j'ai peur que ça, finalement, motive des raccourcis technologiques qui sont, à mon avis, très dangereux.
Loïc Stéphane, sur ces dérives, c'est quelque chose que vous envisagez?
C'est pas ce qu'on observe, nous, dans les données, en fait. En fait, c'est une question des dilemmes moraux. Il y a un très bon bouquin qui est écrit par une philosophe qui s'appelle Frédéric Letcher Flack, qui s'appelle « Qui vivra, qui mourra ?» et qui pose les questions des différentes dilemmes, les dilemmes éthiques classiques qu'on connaît, jusqu'au dilemme de suprême emergency. Et c'est très connu, c'est le dilemme du trolleybus, ou alors des lifeboats éthiques. Beaucoup d'anglais, c'est pas très clair. On va prendre un exemple. Vous avez un canot de survie, il y a 10 places dans le canot de survie, vous avez 20 personnes. Sur quels critères on sélectionne les gens qui vont survivre? Et l'effondrement pose ce genre de questions. Et paradoxalement, nous, ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est des gens qui promeuvent l'altruisme, la coopération, et c'est les comportements
c'est
pro-sociaux.
C'est tout ce que vous avez observé, et pas l'inverse, et pas l'exclusion, et pas le...
Non. On observe très peu d'exclusion, en fait. On a des gens qui s'attendent à des conflits, on a des gens qui s'attendent à des réactions parfois virulentes, etc. Mais dans l'imaginaire français, en tout cas, c'est plutôt les comportements pro-sociaux qui sont plébiscités. Je pense que c'est en fait la collapsologie. Il faut pas avoir peur de la collapsologie. Il faut donner des réponses aux inquiétudes des gens. Nous, on a des témoignages comme Clément qui sont très très forts. On a fait des entretiens. Moi, j'ai eu en entretien une personne qui songeait avec Pierre-Éric Suter Alors, mon co-auteur, j'écris avec Pierre-Éric Sutter et Dylan Michaud, et Pierre-Éric est un spécialiste du burn-out. En fait, ce qu'on a observé, c'est que quand on pose l'hypothèse du collapse, on n'a plus d'avenir. Donc, pourquoi avoir une maison? Pourquoi fonder une famille? Qu'est-ce que sera mon avenir? Et en fait, au départ, il y a un blocage, il y a de la peur, etc. Mm-hmm. Mais très rapidement, il y a un processus qu'on appelle en psychanalyse la métanoïa, c'est-à-dire la transformation des valeurs. Et les gens vont aller vers un apaisement et vont aller vers des comportements prosociaux. Et finalement, je pense que le collapse pose des bonnes questions dans le sens où il faut le prendre comme un objet tranquille, frontière. Il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, dans la collapse heureuse que j'administre, c'est un groupe Facebook dont vous avez évoqué, les gens sont relativement sereins, finalement. Il y a quelques angoisses, etc. Mais globalement, ils ont envie d'essayer de faire quelque chose, même si c'est pas efficient, même si c'est pas pertinent.
Et je vais essayer de vous couper pour lancer le disque. C'est REM qui chantait la fin du monde joyeusement. It's the end of the world as we know it. C'était REM sur France Inter, midi 43. Merci à Thierry Dupin qui a signé la programmation musicale.
Le débat du midi, Nadia Dame sur France Inter.
On a énormément de réactions qui vont dans plein de sens différents, mais qui interrogent aussi le rapport entre la collapsologie et le politique. Est-ce que la collapsologie, l'effondrement, ça n'exonère pas finalement la politique et la loi, Jean-Baptiste Fressoz?
Je pense que c'est l'un des dangers.
C'est-à-dire
en disant finalement l'effondrement est inéluctable, est-ce que ça dépolitise pas les questions, sachant qu'en fait l'effondrement du capitalisme fossile, il faut le provoquer, ça va pas tomber tout seul. Ce que je disais, c'est qu'il y a encore énormément de ressources fossiles. Et donc, si on veut que ça s'arrête, il faut se mobiliser pour l'effondrement et pas en disant il faut qu'on devienne résilient à un effondrement qui va venir. Ce qui est quand même deux positions politiques très, très différentes. D'une certaine manière, pour moi, la collapsologie, c'est un petit peu comme si on pouvait faire l'économie du politique et de la révolution, quoi. En gros, la nature va se charger de faire une table rase et là-dessus, on pourra reconstruire les jolies sociétés.
Et ça, ça marche pas.
Je sais pas si ça marche pas, mais en tout cas, c'est très dépolitisant et ça ne permet pas de nous armer face au lobby industriel. L'autre chose qui me frappe, c'est le raccourcissement des horizons temporels. On dit ça va s'effondrer en 2020-2030. Comment comprendre alors que, je sais pas, Vinci veut racheter les aéroports de Paris pour une concession qui dure 70 ans. D'ailleurs, il y a un référendum, enfin, il faut signer la pétition pour le référendum pour interdire, pour empêcher ça. Donc, il y a vraiment des enjeux, des batailles politiques à mener bien précises qui se jouent dans le long terme. Et la collapsologie nous permet pas de nous armer pour ça. C'est pour ça, pour moi, que c'est une régression par rapport à l'écologie. L'écologie, c'était la défense des non-humains, la prise en compte des non-humains, de la nature et la prise en compte du long terme. La collapsologie, c'est un truc qui est très anthropocentrique, qui est centré sur la civilisation industrielle, comme si c'est ça qu'il fallait protéger d'une certaine manière, qui était en danger, alors qu'elle se porte plutôt bien. Et ça raccourcit les horizons temporels, alors que l'écologie, c'était l'intégration du long terme. Voilà.
Gauthier Chapelle, une régression politique.
Ouais, non, pour moi, je vois vraiment pas du tout ça comme ça. D'abord, si Jean-Baptiste Fresseau a lu tous mes bouquins, et a priori il l'a fait, il sait bien aussi l'importance qu'ont les non-humains pour nous. Par ailleurs, dire que c'est centré sur la civilisation industrielle, sinon nous on centre le discours là-dessus, c'est pour insister sur sa responsabilité principale et pas sur le fait qu'il faut la sauver, certainement pas. Et par ailleurs, dire qu'il faut que c'est dépolitisant parce que c'est juste travailler la résilience plutôt que de travailler la chute de ce système, là c'est faire une opposition, là où on peut faire une juxtaposition. Nous on prône les deux. Il se fait qu'on n'a pas encore écrit le bouquin sur la politique de l'effondrement, justement parce qu'on voudrait le faire de façon beaucoup plus collective et certainement pas prescriptive nous-mêmes, parce qu'on n'estime pas avoir les réponses tout seul là-dessus. On est très heureux justement de cet effet de communauté qui est en train de se cristalliser autour des plateformes du style de celle qu'anime Loïc Stéphan. Et voilà. Et donc moi, je ne pense pas du tout qu'on est assis sur notre chaise à attendre que ça s'effondre. On n'en fait pas la pub spécialement, mais on est tous, je dis tous les trois, pour parler du trio,
avec
mais aussi
auteurs,
nos amis, d'autres amis autour de nous. On est tous engagés dans des mouvements divers qui, notamment, essayent de freiner les dégâts de la civilisation industrielle. Ouais. Parce qu'il faut quand même voir que le collapse, il a deux faces. Il a la face du collapse de la biodiversité, de tout ce qui va se passer avec le climat et la biodiversité et toutes les interactions entre les deux. Et puis, il y a la civilisation industrielle. Et d'un côté, j'ai envie de dire qu'il y a un collapse qu'on va subir et dont on n'a pas envie, qui est le naturel dont je viens de parler, enfin le naturel qui se réfère au système naturel, et de l'autre le collapse de la civilisation industrielle. Moi aussi je souhaite qu'il arrive le plus vite possible, en faisant le moins de dégâts humains possible, certes, mais qu'il arrive le plus vite possible, et donc on travaille aussi là-dessus. Donc là je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé et voir qu'on peut faire les deux à la fois, et qu'on n'appelle pas à l'un contre l'autre.
Clément Monfort, malgré tout, est-ce qu'on peut opposer finalement deux narrations, deux récits? Il y aurait une forme d'écologie polie, patiente, politique, et puis une écologie plus brutale et plus intransigeante, et ces deux-là ne se rejoignent pas?
C'est une question très compliquée, mais ce que j'ai pu observer là ces derniers mois, j'ai suivi un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, qui est né en Angleterre et qui est présent en France maintenant, un petit peu partout et dans le monde entier. Ils ont été gazés sur le pont de Sully il y a peu de temps, et ça a fait la une de tous les médias du monde. Ce que j'ai constaté, moi, dans ce mouvement, c'est que quasiment tous les militants avec qui j'ai parlé, et j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, sont au courant de la collapsologie, des théories de l'effondrement, et chez eux, ça les a mobilisés. Ils ont eu peur, mais la peur, c'est un système qui nous pousse parfois à l'action. C'est un sentiment.
Comme ça peut également tétaniser, peut-être, non?
Je pense que ça, c'est plus la panique ou l'angoisse. Mmh. Mais quand on est dans la panique ou l'angoisse, quand l'objet qui nous angoisse, on n'arrive pas à l'identifier, on n'arrive pas à le nommer ou à le désigner. À partir du moment où on sait de quoi on a peur, c'est pas le même sentiment. Et là, face à la peur, alors oui, il faut du courage, exactement. Mais les militants d'Extinction Rebellion que j'ai filmés ont ce courage-là de préparer des blocages, voire des sabotages. Et je pense que là, on va entrer dans une nouvelle ère du militantisme.
Et on est donc dans une forme de militantisme qui est encore différente, parce qu'on parle sabotage, ça peut être assimilé à de la violence pour certains. On n'est plus du tout dans ce que vous décriviez tout à l'heure, du lien entre les communautés. Là, on est dans l'action politique féroce quand même.
C'est pour revenir sur cette question du politique, la collapsologie, de ce que j'observe, est aussi une porte d'entrée vers l'action politique, parfois radicale.
Et violente. possiblement
et violente pour certains. Mmh. Certains font ce choix-là parce qu'ils considèrent que l'enjeu demande des actions à cette hauteur-là.
Loïc Stéphan, c'est un chemin possible de la collapsologie.
C'est ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'affirme Jean-Baptiste Frézos, au contraire, ça repolitise énormément les gens. Il y a immédiatement arrive la question des inégalités. Il y a énormément de discussions sur les gilets jaunes, par exemple, dans les groupes de collapso. Oui. Il y a énormément de réflexions sur les actions à vivre politiques. Et en fait, il y a un petit essai qui a été écrit par Pierre-Henri Castel qui s'appelle Le Mal
qui vient. Ça fait beaucoup de livres. Hein.
Ah oui, mais
grosse bibliothèque.
Oui. Oui, mais je suis Clément me connaît un peu. Il sait que je suis un bibliopathe. En fait, dans ce livre, il dit voilà, quand vous êtes sûr que c'est votre existence qui est menacée. Ben, du coup, vous avez des réactions, des pulsions de vie qui vous entraînent vers des réactions violentes, potentiellement violentes. Et c'est ce que nous, on observe chez Deep Green Resistance, par exemple. C'est des gens qui sont quasiment prêts à sacrifier des humains pour le combat écologique.
Mais sacrifier des humains, il faut préciser.
Ah oui, carrément. C'est-à-dire,
de quelle manière
ben, vous avez des gens, moi par exemple, j'ai eu un témoignage qui est très très fort, une personne qui ne voulait pas avoir d'enfant, qui voulait se faire... une jeune fille qui veut se faire une ablation de l'utérus pour être sûre de ne pas avoir d'enfant et qui considérait que la cause des animaux était supérieure au maintien de la vie sur Terre. Moi, c'est une option politique que je ne partage pas. Je ne partage pas les options politiques malthusiennes de Cochet. Mais on observe justement des réactions, des fois politiques disproportionnées, tellement l'enjeu paraît existentiel.
Jean-Baptiste Frézos.
Ça, c'est typiquement, pour moi, c'est pas une réaction politique de se dire individuellement, je vais pas faire d'enfant. C'est exactement l'inverse du politique. C'est penser que c'est des solutions qu'on peut
individuelles.
Alors que, qu'est-ce que les collapsologues ont à dire sur la politique du logement, sur des choses de long terme? C'est ça, l'écologie, c'est les transports, c'est réorganiser le système des transports, c'est discuter de ce genre de choses concrètement et sérieusement, comme on va réduire la consommation énergétique tout en faisant des renouvelables en même temps.
C'est une question d'échelle.
Ça se joue forcément à l'échelle, en plus, au moins européenne, et en fait, ça se jouerait dans la coopération internationale. Donc, c'est pour toutes ces raisons, je trouve que c'est vraiment pas politisant dans le bon sens du terme, en fait. C'est ça le problème. Alors, je sais pas si je arrive à vous convaincre, mais j'ai pas l'impression que ça nourrisse des affects politiques qui permettent d'agir dans les élections, d'agir de manière collective et politique.
Ce serait vain, Gauthier Chapelle.
Non, moi j'ai l'impression qu'on remonte à des racines plus profondes que ça. Quand on remet en question, par exemple, simplement, mais on remet en question, le GIEC remet en question l'utilisation des combustibles fossiles, ça veut dire que discuter pour l'instant isolation de logement, tant que tout ce qu'on emploie comme technologie dépend des combustibles fossiles, ça c'est vain pour le coup.
La croissance verte, vous n'y croyez pas, c'est ce que...
Ah non, absolument pas. Moi je pense qu'on est obligé de faire de la décroissance d'utilisation des ressources naturelles. Ouais. Par définition, on s'appuie sur deux substances qui sont non renouvelables, même si, comme Jean-Baptiste Frézos l'a dit, il y a du pétrole largement assez pour détraquer complètement le climat, mais donc celui-là, il est non renouvelable climatiquement, et les métaux, par exemple, de l'autre côté, sont non renouvelables tout court. Donc on a des telles remises en question à faire, et ces remises en question, bien entendu, auront des implications sur la politique du logement, des transports, l'agriculture aussi. Je suis étonné qu'on n'en parle jamais plus. L'agriculture est demandée par le GIEC comme étant le secteur qui pourrait fixer des gaz à effet de serre, donc non seulement arrêter d'en émettre, mais le fixer. Et même dans le rapport qui vient encore de sortir maintenant, on n'appelle toujours pas très clairement les États, justement, à développer une agriculture qui soit totalement indépendante des combustibles fossiles, alors même qu'il y a tout un mouvement, essentiellement citoyen d'ailleurs, qui commence à devenir académique, pour aller vers des modes d'agriculture qui permettraient, qui sont sans doute pas encore totalement mûrs, mais qui permettraient d'en sortir complètement. Et là-dessus, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, on est agronome tous les deux. Je peux vous dire que la question de l'agriculture, c'est même la question qui a lancé Pablo Servigne dans sa réflexion et qui lui a permis de voir le collapse
Pablo
plus général
Servigne, arriver. Théoricien de la collapsologie.
Oui, c'est quand il a fait, à la demande d'Yves Cochet, un bouquin sur l'avenir de l'agriculture en Europe. Bouquin qui a été présenté au Parlement européen. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il y a quand même des liens avec le politique et que ces liens continuent. On est tous d'ailleurs en dialogue, excusez-moi, moi je suis en Belgique, mais en Belgique, je peux vous dire qu'on est on est en dialogue et on est régulièrement d'ailleurs invité à discuter avec des hommes et des femmes politiques qui se posent des questions, forcément essentiellement du Parti écologiste, mais même pas seulement. Donc voilà, donc je voudrais bien là encore une fois qu'on puisse mettre des nuances et pas tomber dans les caricatures.
On l'a compris, Clément Monfort, vous l'avez constaté ça, ce lien maintenu entre les collapsologues et le pouvoir politique et les collectivités.
De quelle manière, pardon ?
Ce qui vient d'être dit, que les collapsologues ne seraient pas totalement coupés des lois,
Ah oui, bien sûr, mais je l'ai constaté notamment...
C'est pas des anarchistes, ce que je veux dire.
Bah, il se trouve que Pablo était très sensible aux questions d'anarchie assez jeune, dans ses jeunes années, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui, il y a une coopération, il y a des discussions politiques. Ils ont été invités notamment à Bercy, au ministère des Finances.
Alors on pourrait avoir un politique ouvertement collapsologue, un député, un ministre qui se dit collapsologue.
On en a, vous avez l'été dernier Édouard Philippe et Nicolas Hulot qui ont fait un Facebook live pour dire que son livre de chevet, c'était Collapse de Jared Diamond, d'une manière complètement décontractée, c'était vraiment surréaliste comme situation, mais le Premier ministre disait que c'était une question qui l'obsédait tous les jours. Après, est-ce qu'il est collapsologue ou pas, en fait on s'en fiche, mais en revanche, le bouquin de Jared Diamond n'est pas un bouquin de collapsologie, c'est pas exactement la même chose. Lui, il met l'accent sur la question de la surpopulation et pas sur la question d'un mode de vie, d'un mode de vie industriel qui, comme le disait Jean-Baptiste, est responsable de la destruction du suivant.
Jean-Baptiste Ressoz, un dernier mot.
Un dernier mot, je pense qu'il y a un enjeu aussi par rapport à la crédibilité de la science, en fait. J'ai l'impression que les médias ont eu tendance à donner beaucoup trop d'importance à deux minorités, ça a été les climato-sceptiques dans les années 90 et 2000, et maintenant c'est l'idée qu'il va y avoir un effondrement à très court terme de la civilisation industrielle.
Et ce qui m'inquiète... Vous les mettez sur le même plan, le climato-scepticisme?
Alors, je ne les mets pas sur le même plan, parce qu'évidemment, d'un côté, c'est les ennemis absolus, de l'autre, c'est plutôt des gens qui s'égarent.
Bien sûr, mais dans la représentation...
Mais à mon avis, le problème, c'est que l'enjeu, c'est qu'il faut faire confiance à la communauté des climatologues. Quand Jean Jouzel, qui est un membre important du GIEC, qui nous dit ça n'a aucun sens de parler d'un effondrement à très court terme, tout simplement parce que les pires effets du changement climatique, on les aura après 2050. On est en train de les produire maintenant par notre action, mais c'est après 2050 que ça va se réaliser. Pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre et écouter, et ne pas nous sortir des prédictions de on va avoir 3 millions de morts avant 2020-2030.
C'est une fake news?
Je sais pas si une fake news, enfin, j'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas, c'est quelque chose, en plus, ça se gargarise d'être très scientifique et donc, qu'est-ce qui va se passer quand en 2020-2030, il y aura des inondations, évidemment, de plus en plus, des famines dans les pays pauvres, évidemment, il y aura pas eu un effondrement de la civilisation industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire sur la crédibilité de l'alerte scientifique? Je pense qu'il faut être très très vigilant de ce point de vue-là.
Un tout dernier mot, Loïc Stéphan, vous a pas entendu?
Oui, alors, je suis d'accord avec lui, je crois que c'est très dangereux de donner des dates, et parce que ça fait prédiction Maya et c'est pas très sérieux.
C'est Paco Rabanne, quoi.
Ouais, c'est Paco Rabanne, et ce que vous avez cité dans l'extrait, et pour moi c'est pas très sérieux, mais par contre je suis pas du coup d'accord avec Jean-Baptiste Ressoz, il faudrait qu'on ait un débat plus long. Moi au contraire c'est très politique, je pense à Stéphane Linou par exemple, qui vient de faire un petit bouquin qui s'appelle Résilience alimentaire et sécurité nationale, ça a donné lieu à un rapport au Sénat. Les gens travaillent sur ces questions et prennent en compte les données scientifiques, et au contraire, la collapsologie, pour peu qu'on la caricature pas, et c'est ce que disait Gauthier, peut être le prémisse d'une prise de conscience politique, et en cela, il faut essayer d'être nuancé dans la critique que l'on porte à la collapsologie, parce que je crois qu'on rend plutôt service aux climato-sceptiques et à tous les ennemis des changements nécessaires avec plus d'égalité. Quoi.
Je crois que le débat était plutôt nuancé et l'émission est finie. Merci à tous les quatre. Merci à l'équipe, merci à la technique, Paul Porcheron et Maxime Ingrand. Demain, on se demandera si on est devenu fou avec les systèmes de notation systématique dans le débat de midi.